Gaston Leroux, Le cœur cambriolé, chapitre 1, Mes fiançailles avec Cordélia, suivi du chapitre 2, Le petit portrait. Mes parents nous avaient fiancés dès notre plus jeune âge. Quand j'avais 12 ans et qu'elle en avait 8, on disait déjà autour de nous que nous formions un couple charmant et nos mères nous admiraient. Nous aurions voulu nous marier tout de suite, tant nous nous aimions. Nous étions cousins germains et nos familles nous réunissaient pendant les vacances. À cette époque, Cordélia m'avait déjà donné son cœur, son petit cœur de 8 ans. Moi, j'étais un très grand garçon pour mon âge, d'un blond presque roux, très fort, enragé de sport, paresseux à l'étude. La vie au grand air était la seule qui me convint. J'en avais donné le goût à Cordélia, qui avait plutôt un penchant pour la lecture et les arts. Sa mère était italienne, mon oncle l'avait épousée au cours d'un voyage d'affaires qu'il avait fait à Turin. À 8 ans, Cordélia était déjà bonne musicienne, mais elle nous étonnait surtout par sa facilité à dessiner ou à peindre ce qui la frappait ou l'intéressait. Pour moi, tout ce qui sortait des mains de Cordélia me paraissait un miracle. Je ne l'en aimais que davantage, et je ne lui marchandais pas mon admiration. C'est moi qui lui appris à monter à cheval. Elle était intrépide. Quelquefois, elle me faisait peur, mais je n'avais qu'à la suivre. Elle faisait de moi tout ce qu'elle voulait. Je n'ai jamais été un rêveur. Soudain, elle me disait « Rêvons !» Et je faisais à côté d'elle le rêveur, c'est-à-dire que je me taisais. Puis elle me regardait d'un drôle d'air et éclatait de rire en me disant « Embrasse-moi !» Je voulais l'embrasser et elle se sauvait. On s'est amusé comme cela jusqu'à mes 19 ans. J'étais devenu un grand gaillard avec des taches de rousseur. Elle me trouvait le plus beau des hommes. Elle m'a toujours trouvé le plus beau des hommes. Quant à elle, elle était devenue quelque chose d'ineffable. Sa finesse de petite fille mutine présentait maintenant une ligne idéale pleine de noblesse et d'agrément. Elle n'était ni brune ni blonde, elle avait une couleur de cheveux bien à elle, que j'appelais de la vapeur de cheveux. Elle avait les yeux verts paillettes d'or, qui changeaient de nuance à chaque instant. La jolie taille! Elle était souple comme une liane, ainsi que l'on dit couramment, mais point fragile. Nous continuions à jouer comme des enfants. Cependant, un jour, nous nous prîmes la main et nous allâmes ainsi de compagnie demander à nos parents de nous marier sans plus tarder. Nous avions une folle envie de faire un voyage de noces, à cheval. À notre grand désespoir, on ne voulut pas nous écouter. On remit le voyage à cheval à 5 ans de là, et l'on me fit partir pour l'Amérique, ce qui me parut une amère dérision et bien cruelle. Puis je fis mon service militaire, puis l'on me renvoya en Amérique. Mon père, qui était dans les aciers, avait dessein de me prendre dans ses affaires, mais auparavant, il tenait à ce que je fisse un stage complet dans un de ces instituts technologiques des États-Unis où l'on est censé apprendre tout ce qui peut être utile à un ouvrier et à un ingénieur, mais où, spécialement et glorieusement, on pratique tous les sports. Je puis dire que j'étais l'orgueil de l'institution, bien que le plus cancre. La boxe, le tennis, le golf, l'équitation, la natation, l'aviron me distrayaient avec violence de la pensée de Cordélia sans m'en détacher jamais. Je comptais les mois qui me séparaient du bonheur attendu. Entre-temps, mon père et ma mère étaient morts presque en même temps, au cours d'une épidémie d'influenza, comme on disait alors. J'accomplissais leur volonté en ne précipitant point les événements. C'était leur idée que je me mariasse, point avant que j'eusse atteint mes 24 ans. Je ne voulais pas les contrarier, surtout après leur mort. Mon oncle, en ces circonstances cruelles, fut parfait pour moi. Il s'occupa de toutes mes affaires. Je n'eus aucun ennui, bien que mes parents me laissassent une grosse fortune. Il me demanda si je voulais prendre la suite des affaires de mon père. Je lui répondis que je n'y aurais point manqué si cela avait été nécessaire, mais que, puisque j'étais suffisamment riche pour faire le bonheur de Cordelia et le mien, j'avais décidé de vivre le mieux possible de nos rentes. Il me répliqua que je m'ennuierais si je ne travaillais point. Je lui répondis encore que je m'étais quelquefois ennuyé quand je travaillais, mais jamais quand je ne travaillais point. Mon oncle avait des idées d'un autre âge, qu'il n'a pas connu tout ce dont la vie d'aujourd'hui est pleine. Je veux parler du mouvement qui donne la santé et le bonheur. Un athlète ne s'ennuie pas. Du reste, le raisonnement que je tiens là sur le travail n'est point nécessairement celui d'un sportsman. J'ai entendu un homme d'une grande intelligence, un homme de lettres, c'était un romancier qui travaillait 10 heures par jour, affirmer qu'il avait horreur du travail parce que le travail, en absorbant le meilleur de son temps, l'empêchait de voir la vie, occupation prodigieuse, spectacle, où ne s'ennuient que les imbéciles. Il considérait le travail comme une basse nécessité à laquelle l'humanité avait été condamnée pour ne sais quel crime, et il disait que ceux des humains qui, par un sourire des dieux, en ayant été affranchis, le réclamaient à nouveau parce qu'ils trouvent les heures trop longues, méritent un châtiment éternel. Et moi, je suis de cet avis, et j'ajoute, s'ils s'ennuient, qu'ils fassent du football, sacrebleu. Enfin, j'atteignis mes 24 ans, et je pris le paquebot pour le Havre. Je m'imaginais déjà Cordelia m'attendant au bout de la jetée. Il y avait 18 mois que je ne l'avais revue. Nous n'avions cessé de nous écrire dans la plus grande liberté. Cependant, dans la dernière période de mon séjour là-bas, j'avais cru m'apercevoir qu'il y avait quelque chose de changé en elle. Son cœur, certes, était resté le même pour moi, mais sa pensée devenait incertaine. Autant dire que je ne comprenais point tout ce qu'elle me mettait dans ses lettres. J'ai dit que Cordelia avait toujours eu du penchant pour les arts, et particulièrement pour la peinture. Eh bien, c'est à propos d'un petit tableau qu'elle m'avait envoyé, mon portrait fait de mémoire, que je trouvais magnifique, qu'elle m'écrivit des choses extraordinaires, que je qualifiais avec mépris et sans trop savoir pourquoi, de déliquescente. Enfin, appartenant à un domaine dans lequel on n'avait pas l'habitude de se promener, à mon institut technologique. Je me disais, Cornelia pense trop. Il est temps que j'arrive. Ce que je vais lui faire, lâcher ses livres, sa peinture et sa musique, et hop, à cheval, comme dans le bon vieux temps. Mais revenons à ce petit portrait à propos de quoi je vais sortir mes notes. Certes, je n'ai rien du monsieur qui écrit au jour le jour ses mémoires, mais je suis très heureux d'avoir toutes ces notes, et voici comment elles ont été prises, presque sans que je m'en doute, et comment elles ont été conservées. J'ai beaucoup d'ordre, et j'ai toujours tenu un compte exact de mes dépenses. Tous mes petits registres, je les ai encore. Or, le soir, après avoir fait mes comptes de la journée, je restais là devant mon total, à rêver de Cordelia, et quelquefois je ne refermais point le livre sans y avoir consigné quelques pensées à son adresse ou quelques réflexions à propos de sa dernière lettre. C'était souvent très simple. Ainsi, je lis sur le compte de la journée du 25 avril 1836 $10. « Chère Cordelia, nous aurons de beaux enfants. » Ou encore, quelque chose de plus simple encore. « Le 30 mai de la même année, $25, 10 pence, cher, cher, cher Cordelia. Et voici les notes à propos du petit portrait. J'ai reçu aujourd'hui mon portrait peint par Cordelia. Il est frappant de ressemblance, rien n'y manque, pas même la marque que j'ai gardée sous le sourcil droit d'une chute malheureuse que je fis sur l'angle d'une marche quand j'avais 8 ans. Je perdis alors du sang en abondance, et je me rappelle le désespoir de Cordelia qui jouait avec moi. Je suis sûr qu'en retraçant cette petite cicatrice, Cordelia s'est souvenue de cette heure néfaste avec émotion. Cher, cher Cordelia. Et c'est un mois plus tard que j'inscrivis la note suivante. Qu'arrive-t-il ? J'ai reçu une lettre de Cordelia à laquelle je ne comprends rien. Elle me réclame mon portrait. Elle trouve cette peinture indigne. Je n'ai pas bien saisi si elle estimait qu'elle fût indigne d'elle ou indigne de moi. Enfin, elle prétend que, tout en me ressemblant, cela ne me ressemble pas. Quel est ce charabia ? Et toujours à propos de ce portrait, que je me garde bien du reste de lui renvoyer, parce qu'il me plaisait à moi, beaucoup, je lis encore. Cordelia m'écrit que je devrais comprendre qu'il y a autre chose à mettre dans un portrait que les lignes de la figure, par exemple le dessin de l'âme, et que tant que l'on n'a pas dessiné l'âme dans un portrait, on n'a rien décidé du tout. Eh bien non, je ne comprends pas. Comment elle pourrait dessiner mon âme, qui est une chose essentiellement invisible? Si elle veut dire par là qu'il est nécessaire de mettre de la vie dans un visage, je suis de son avis, il suffit pour cela d'un certain point éclatant et bien placé dans l'œil. Mais dessiner l'âme... Oh, je vais lui demander des explications. Je passe quelques autres notes qui relatent mon étonnement, toujours à propos des lettres de Cordelia, qui du reste se faisaient de plus en plus rares et de plus en plus courtes. J'ai hâte d'arriver au Havre. M'y voici. Hélas, Cordelia ne m'attendait pas sur la jetée. En revanche, un vieux domestique de mon oncle vint au-devant de moi sur le Titan, qui est un petit remorqueur faisant le service du pilotage et de la poste, et j'appris que Cordelia et son père étaient partis l'avant-veille pour un voyage pressé à l'étranger. Bien que très endurci par les sports, je ne pus retenir mes larmes, car cette nouvelle était si inattendue et coïncidait si peu avec mes désirs que j'eus le pressentiment d'un malheur irréparable.